Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Mathilde Viau est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Mathilde Viau avec ce livre L'homme politique, moi j'en fais du compost. On va parler aussi du collectif contre les violences sexistes. Mais comment avez-vous réagi au verdict du procès Johnny Depp Amber Heard?
C'est une affaire que j'ai assez mal suivie. D'accord. Pour tout vous dire. Donc j'ai pas eu de réaction. J'ai vu l'acharnement sur les réseaux sociaux contre Amber Heard. Moi j'étais préoccupée par ce qui se passait avec Monsieur Abad. Donc voilà. J'étais.
Parce que c'est vous. C'est votre collectif qui a révélé l'affaire Damien Abad.
On en est où justement? Parce que donc, rappelons que vous avez recueilli un témoignage qui accuse Damien Abad. Ce témoignage a été transmis, enfin cette information a été transmise à la justice. La justice estime qu'elle ne peut rien faire puisque la personne reste anonyme, c'est ça?
Alors ça c'est assez faux parce que il y a beaucoup d'enquêtes préliminaires qui sont ouvertes sur la base de témoignages anonymes. Donc c'est pas un frein juridique ou judiciaire en soi pour ouvrir une enquête. Ils ont probablement décidé qu'ils n'avaient pas d'éléments suffisants. Après, ils ne sont pas venus nous voir, l'Observatoire, donc on n'a pas été contactés par le parquet, qui aurait pu venir nous demander voilà, comment va la victime, est-ce que vous voulez nous en dire plus, est-ce que vous êtes sûr qu'elle veut garder l'anonymat, et nous apporter éventuellement des garanties sur sa protection, parce que c'est une question aussi de protection.
Ouais. Pourquoi la victime ne veut pas porter plainte?
Elle s'est exprimée là-dessus dans Mediapart, et puis un peu via notre voix, parce qu'on a fait un communiqué de presse où on reprenait ces messages qu'elle nous avait envoyés, où elle dit qu'elle n'a pas envie de se mettre dans un tumulte judiciaire qui est très violent, premièrement. Et deuxièmement, dans Mediapart, elle dit quelque chose que je trouve assez fort. C'est que la justice, quand elle passe dans des affaires comme ça le plus souvent, au vu de la configuration de ce type d'affaires, qui se déroulent dans des huis clos, etc., on en arrive très souvent à des classements sans suite ou des non-lieux.
Des non-lieux.
Et très souvent, en fait, la réaction des gens, c'est de dire ça n'a pas eu lieu, justement. Ça n'a pas existé. Et c'est tellement violent pour une victime qui a vécu ça, de se dire, en fait, si la justice passe, en fait, elle va faire pire que si je ne l'ai pas saisie. C'est-à-dire qu'elle va effacer l'existence de ce phénomène. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle ne porte pas plainte. Et nous, l'Observatoire, on n'est pas là pour donner des injonctions.
D'accord, alors expliquer à ceux qui nous écoutent pourquoi a-t-elle parlé, puisque finalement, elle ne veut pas non plus sortir de cet anonymat, craignant d'être dans une tumulte médiatique.
Elle a parlé pour, je pense, faire un appel aussi d'air à d'autres témoignages. Clairement, il y a eu des témoignages, notamment chez LR, d'Aurélien Pradier, par exemple, qui expliquait qu'en fait, M. Abad avait des comportements inappropriés avec beaucoup de personnes. Et donc, vraisemblablement, comme c'est le cas dans d'autres affaires qu'on a pu voir avec PPDA, par exemple, ou d'autres, il y a des mécanismes systémiques qui sont mis en place certains mecs, en fait, qui
la
sont...
La démolition médiatique est plus importante que la démolition
pour les victimes.
Que le jugement le jugement judiciaire
pour les victimes.
Oui, non mais vous faites, vous dites ça va le démolir médiatiquement.
Nous, on veut pas le démolir.
Nous,
on veut pas du tout le démolir. Moi je ne veux pas le démolir, je veux faire en sorte, et c'est beaucoup plus large que ça.
Vous avez demandé sa démission.
Oui, tout à fait, mais sa démission ça n'a rien à voir, enfin dans une entreprise par exemple, regardez monsieur Bourdin, excusez-moi mais il a eu des comportements inappropriés, l'entreprise a estimé qu'il ne pouvait pas rester dans les murs, il y a une décision qui a été prise, il y a pas eu de procès.
Oui, mais l'affaire a été classée sans suite. Il n'y a pas eu de suite derrière.
Mais peu importe. En fait, en réalité, l'idée, c'est de dire... Non, mais l'idée,
donc, c'est ça.
Non, mais l'idée, c'est de dire que... Si c'est sur la présomption d'innocence que vous voulez venir, on peut en parler. L'idée de la présomption d'innocence, c'est de dire on ne met pas une personne en prison sans jugement, sans avoir eu accès au contradictoire, etc. Là, on ne demande pas à Elisabeth Borne de mettre Damien Abad en prison. On lui demande vraisemblablement...
De le mettre de côté socialement. De le mettre
en retrait. Pas socialement.
Politiquement. C'est faire la politique.
Oui, il est ministre, il est censé incarner l'intérêt général. Oui. Est-ce qu'il peut incarner un intérêt général en ayant deux accusations de viol? Et quel message ça envoie à la société? C'est ça la question.
Est-ce que
il va perdre. L'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'il perde. Il laisse pourrir la situation en espérant totalement qu'il va être mis au placard. Donc c'est hyper ridicule, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun courage politique.
C'est cynique.
C'est-à-dire
qu'il faut le pari qu'il sera battu aux législatives. Oui. Comme il y a l'arrêt que tout ministre battu doit démissionner, ça réglera
Ça les arrange. Donc comme ça, ils peuvent un peu taper sur un ministre. Voilà.
Barbara Lefebvre.
Oui, la question qui se pose dans votre ouvrage, dès l'introduction, vous présentez le monde, parce qu'en fait, votre livre porte largement sur votre expérience en tant que salariée à l'Assemblée nationale et conseillère
du groupe de la France
Insoumise. Écolo d'abord et France Insoumise ensuite. Mais dès l'amorce de votre livre, enfin, moi je suis tout à fait sur votre ligne sur la question de Damien Abad et de la nécessité pour les hommes politiques, et en particulier ceux qui sont à des postes de responsabilité, d'être exemplaires. Néanmoins, dans votre livre, vous commencez dès le début, et je ne sais pas si ça sert véritablement votre combat, mais enfin bon, vous commencez dès le début par ces mots. Dans ce monde, donc le monde politique, le mal enrobé de parfum terre d'Hermès domine.
Bon, ouais, donc ok. Parce qu'il y a une conjonction. Le terre d'Hermès, ça, c'est un parfum très cher, et il y a une conjonction de plusieurs facteurs.
Oh, oui, tous les parfums sont chers. Bon, vous savez, les Guerlain sont encore plus chers.
C'est vrai, j'aurais dû prendre Guerlain.
Vous dites, de fait, le pouvoir s'incarne en un homme blanc, bourgeois, hétérosexuel, valide et de culture catholique.
Ouais.
Alors déjà, Damien Abad valide.
Ouais, mais Damien Abad, vous connaissez beaucoup de personnes handicapées. C'est-à-dire, Damien Abad est extrêmement rare dans le paysage.
Je suis pas. Sur la question hétérosexuelle. Excusez-moi, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes dominants à l'Assemblée nationale aujourd'hui qui sont homosexuels, voyez.
Oui, mais je vais vous dire. C'est difficile à dire et c'est difficile de sortir encore du placard.
Je sais que ça, c'est très difficile à dire aujourd'hui parce qu'on a décidé de taper sur l'homme blanc hétérosexuel. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez dans certains milieux politiques ou dans certains autres milieux médiatiques, etc., une mamie qui peut être une mamie qui n'est pas forcément blanc, hétérosexuel, valide, catholique.
Évidemment,
ces catégories-là, ça dessert votre cause.
Bon, alors, j'apporte une précision. Déjà, ce livre ne s'appelle pas les hommes politiques, il s'appelle l'homme politique.
Ouais, l'archétype.
C'est-à-dire que je m'adresse à l'archétype, c'est-à-dire au fait, ce que j'essaye de démontrer, c'est que l'homme idéal politique, la représentation du pouvoir qu'on a en général, est la conjonction de plusieurs facteurs qui sont ceux-ci. C'est-à-dire, il faut être un homme, il faut être, en général, d'ailleurs, j'aurais pu mettre de plus de 50 ans. De plus de 50 ans, il faut être bourgeois et il faut être souvent hétérosexuel ou se présentant comme hétérosexuel. Donc voilà, plus on s'éloigne de cet archétype et de la façon de se présenter et de présenter, d'incarner le pouvoir, plus on est exclu en fait de la sphère.
J'ai une question à vous poser parce que je suis interpellé sur Twitter. On vous reproche, Mathilde, d'avoir finalement soutenu Tahabouaf en disant qu'il était victime d'harcèlement raciste, alors que
vous
avez des mots durs contre Damien Abad qui lui aussi est accusé des mêmes choses que Tahabouaf finalement.
Il y a eu une temporalité complètement différente dans les deux affaires. Tahabouaf, au départ, il se présente et effectivement, il y a le Front National qui commence à l'attaquer de toutes parts, etc. Moi, à ce moment-là, j'arrive en défense parce que c'est aussi une mécanique que j'explique dans le livre, c'est-à-dire que les personnes qui sont pas des personnes blanches sont écartées. Donc voilà, je fais mon travail en fait de constatation de ça. Tahabouaf s'est écarté. On apprend ensuite que c'est parce qu'il avait été coupable, ou enfin en tout cas accusé, pardon, merci de ne pas m'attaquer, je rectifie, accusé de violences sexistes et sexuelles. Et donc voilà, enfin, il n'y a pas de soutien.
Mais une petite manipulation de la France insoumise, parce qu'il le savait, j'aurais dû le dire plus tôt.
Eh bien, écoutez, moi, je suis assez.
Porte-parole de la France insoumise.
Moi, je suis pas porte-parole de la France insoumise, je travaille pas.
Non.
Moi, je suis conseillère, je suis juriste, en fait, à l'Assemblée nationale. Je suis pas dans les petits papiers et moi pour le coup j'ignorais et je vais pas être responsable de tout ce que fait la France.
Ce que nous dit cette affaire, c'est que finalement l'agresseur présumé, parce qu'encore une fois il n'y a pas eu de condamnation, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question d'âge, c'est pas une malheureusement
c'est pas ce que je dis du tout.
Dans tous les milieux sociaux, il y a des hommes qui frappent leurs femmes, il y a des hommes qui frappent leurs hommes, il y a des femmes qui frappent leurs femmes.
Et je pense que dans quelques temps peut-être qu'on se rendra compte aussi qu'il y a des affaires politique dans le milieu, enfin c'est même pas un milieu d'ailleurs, mais entre eux, par exemple deux hommes qui il y en aura un qui abusera d'un autre.
Mais c'est déjà le cas d'ailleurs. Il y a Bruno Bild qui est accusé par deux collaborateurs au Parlement européen c'est déjà le cas.
Étienne Liebig.
Donc il n'y a peut-être pas d'archétype.
Il n'y a pas d'archétype, c'est pas l'homme politique.
Il y a un archétype et je sais très bien que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui s'en écartent.
La bourgeois à l'Assemblée nationale, c'est autre chose.
Un archétype, ça ne veut pas dire que ça existe.
C'est une définition sociologique.
Peut-être que Dominique de Villepin, par exemple, il correspond pas mal à l'archétype, ou Chirac, beaucoup mieux d'ailleurs, correspondait à l'archétype. Vous voyez ce que je veux dire dans l'incarnation.
Étienne Liebig.
En sociologie, un idéal type, ça n'existe pas. C'est juste qu'on fait une représentation générale parce que ça réunit les pourcentage maximum de tas d'éléments. Clichés. Et donc, on crée un idéal type qui, en fait, n'existe pas, mais il existe que comme produit intellectuel.
Et il permet de comprendre des choses.
Et il permet d'expliquer et de comprendre. Oui, moi, je voudrais juste revenir sur la question de l'Observatoire et de son utilité. Ce que franchement j'ai constaté, je suis moins branché sur la question des femmes victimes de violence que sur la question des enfants victimes de violence par mon métier. Ouais. Et j'ai constaté que le fait qu'on ait commencé d'en parler depuis très peu de temps, en fait, alors qu'il y a 100 000 enfants maltraités en France et un enfant sur 10 qui est victime d'inceste, le fait qu'on ait commencé d'en parler depuis 4-5 ans de façon réelle et que les médias s'en soient un peu emparés permet quand même de façon vraie que des enfants commencent à parler très tôt, alors qu'avant, ils n'en parlaient que 10, 15 ans, 20 ans après.
Pouvoir être détecté par les écoles, etc. Alors qu'avant, ils avaient pas...
Tout le monde est sensibilisé à la question. Donc, sur cette question-là, je ne sais pas, est-ce que l'Observatoire a été construit dans cet esprit-là ?
Alors vraiment, du coup, pas du tout sur les enfants, mais l'objectif, effectivement, c'était de faire la démonstration que les partis politiques, pour l'instant, se refusent de se saisir de la question des violences sexistes et sexuelles parce qu'ils sont... Si vous voulez, moi, ce que j'essaye aussi de démontrer dans ce livre, c'est qu'il y a une valorisation des comportements de domination et de violence, qui sont quelque chose... En fait, il y a un recrutement du personnel politique autour de ça, c'est-à-dire de la capacité d'être agressif, de la capacité d'être, de nuire aux voisins. Et en fait, si vous voulez, du coup, par conséquent, on se retrouve avec des personnes qui sont là, qui ont des problèmes, en fait, de domination, et ça se manifeste aussi avec les femmes.
Ben, de virilité, sûr. En fait, de symbolique de la virilité. Ben,
la domination, c'est d'abord une domination qui se fonde sur des critères le plus souvent sociaux et économiques. C'est-à-dire que vous avez parfois des gens qui viennent, quel que soit leur milieu et leur origine culturelle et leurs orientations sexuelles, s'ils viennent d'un milieu populaire et que tout d'un coup, ils sont projetés dans une situation de pouvoir, ils deviennent par des hasards positifs de la vie, ils deviennent députés. Tout d'un coup, on se rend compte que bien qu'ils viennent d'un milieu populaire, bien qu'ils viennent de telle orientation sexuelle ou de telle catégorie culturelle qui les avait mis dans une position de dominés, lorsqu'ils deviennent dominants, ils sont eux-mêmes derrière.
Vous avez raison, mais vous avez dit quelque chose dans la phrase qui est très intéressant.
C'est le pouvoir.
Vous avez dit, si par le plus grand des hasards de la vie.
Non, mais...
Donc, vous avez vous-même dit qu'en fait, c'était extrêmement rare.
Mais oui, mais c'est ça aussi qui montre bien que c'est la situation de pouvoir qui crée le dominant.
Oui.
C'est pas en soi le fait d'être blanc, catho, hétéro, machin, pour qu'on est dominant. On est dominant parce qu'on a le pouvoir économique, parce qu'on a l'argent, parce qu'on a la position hiérarchique, et c'est ça qui fait qu'on est dominant.
J'essaye de le prendre à l'inverse. Dans le livre, j'essaie de montrer qu'en fait, le fait que toutes ces personnes-là se ressemblent à l'Assemblée nationale, ça a créé des méthodes politiques qui sont...
Et ça a créé des comportements aussi.
Problématiques.
Ça a créé des comportements vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de ceux qui sont je mets des guillemets, les petites mains de l'Assemblée nationale. C'est ce que vous dites d'ailleurs, que en fait, on vous regardait comme des machines à bosser, et puis de temps en temps, on passait, il y avait la main, enfin pas de temps en temps, la main baladeuse, on vous attrapait, on vous glissait la main dans le cou, malgré votre col roulé. C'est ce que vous racontez. C'est le quotidien des femmes petites mains de l'Assemblée nationale.
Tout à fait. C'est pour ça qu'en 2016, après l'affaire Baupin, avec d'autres, j'ai créé un collectif qui s'appelait Chères collaboratrices, parce que c'était quelque chose qui était tellement fort et tu surtout. Il y a une omerta là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé se rebeller contre ça. On est censé vraiment être à la disposition, et puis on est censé bien fermer notre gueule, parce que ça sert à ça aussi.
Combien de propositions indécentes à l'Assemblée nationale ?
Je n'ai pas compté. Je ne sais pas. Je n'ai pas compté.
Mais il y en a eu...
Il y a une sale ambiance.
Mais et on vous tient parce que vous avez un métier précaire aussi.
Alors, il y a aussi la fragilité des contrats, effectivement, des collabs à l'Assemblée nationale, où il y a une clause de loyauté qui fait qu'en fait, dès que le ou la députée considère que le lien de confiance est rompu, il peut se séparer de la collab.
Oui, ben justement, il y a énormément d'affaires aujourd'hui, et notamment au sein de La République En Marche. Ils ont beaucoup d'affaires de harcèlement moral, et d'ailleurs des femmes dedans, des députées femmes,
ça, j'en parle,
dont certaines, comme vous dites vous-même, racisées, qui ont des sacrés... Et qui sont d'ailleurs encore investies, je pense Madame Silla notamment, qui est pourtant des affaires encourées, qui est toujours mise en examen, et qui pourtant, à La République En Marche, au niveau harcèlement moral, ils se portent bien.
Est-ce que la nomination d'une femme à Matignon peut faire bouger les choses ?
Je sais pas, je vais lui laisser le bénéfice du doute. En fait, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure sur le fait que effectivement, quand une personne arrive dans une situation de pouvoir, alors même qu'elle fait pas partie de ce milieu-là, et en fait, elle doit endosser des règles qui préexistent son arrivée.
Tout à fait.
Et donc, c'est une personne toute seule ne peut pas avoir le pouvoir de changer toutes les normes qui ont lieu dans un milieu. Ouais. Et donc, c'est la raison pour laquelle Elisabeth Borne, je pense que malgré tout le éventuellement, l'énergie qu'elle pourrait mettre, elle va avoir du mal à changer des choses. Et c'est la raison.
Au gouvernement, il y a la parité maintenant. Il y a plus de femmes au pouvoir.
Enfin, ouais, dans les secrétaires d'État. Non, mais il y a un fonctionnement. Je sais pas si vous avez vu autour de d'Emmanuel Macron et de ses conseillers. C'est absolument uniforme. C'est très masculin. Oui, ça la crise du Covid a été gérée en conseil de guerre. Il y avait que Florence Parly qui était invitée. Enfin,
ça dépend quand même. Parce que moi, j'ai connu un commissariat qui dysfonctionnait énormément et qui était connu pour ça, mené par un commissaire où vraiment tout reposait sur la virilité et sur le rapport au, et que le jour où c'est une femme qui est arrivée comme commissaire, en deux ans, tout a été changé. Et le rapport viril a complètement disparu du commissariat.
Il y a des femmes, elle a dû déployer une énergie considérable.
Ne pensez-vous pas que l'Assemblée nationale est devenue une sorte d'omerta où personne ne dit rien sur personne et que tout est... Les gens se prennent au-dessus de la loi. Les députés qui font les lois se prennent au-dessus des lois.
Se croient au-dessus des lois.
Ils se prennent pour des intouchables, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous ne pensez pas que faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais? C'est-à-dire qu'ils proposent des projets de loi pénale pour le peuple, mais eux se permettent d'être hors la loi avec leurs propres collaborateurs ou collaboratrices.
Je pense que
ils ont vrillé, en fait, quand ils sont arrivés au...
Je pense que ça vient d'une construction historique. De l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que en réalité, quand les députés à la Révolution française et en 1795, lorsqu'ils s'installent vraiment dans le Palais Bourbon, en fait, ils décident de s'approprier tous les fastes qui étaient dus au roi avant. C'est une sorte de victoire sur la monarchie.
Que les mœurs sont propres.
Et il y a une sorte de ruissellement de l'impunité qui s'est installée de cette façon-là et qui est importante à détruire, je pense. Après, je pense pas que individuellement chacun se dise ah super. Je suis dans l'impunité, mais je pense qu'il y a vraiment, vous avez raison, un système comme ça.
Quand Emmanuel Macron a rentré justement des personnes
mets-toi plus près du micro, s'il te plaît, mais
des personnes de la société civile, est-ce qu'il y a eu les mêmes mœurs qui ont continué en 2017 ou ça s'est d'après vous un peu estompé?
Pas du tout, ça s'est pas du tout estompé. En fait, ils sont arrivés à l'Assemblée nationale, ils ont endossé le costume et bam.
En cow-boy, quoi. Aujourd'hui, on en parle quand même plus, il faut reconnaître.
Grâce à qui?
Mais c'est pas seulement qu'ils ont endossé le costume, c'est que dans tout. Vous parlez de l'Assemblée nationale, mais je veux dire, quand vous avez tout d'un coup une possibilité d'accéder à un pouvoir qui est un pouvoir important, eh bien, vous avez des gens que ça leur fait perdre la tête, ou même ça leur fait pas perdre la tête. C'est juste qu'ils ont enfin la possibilité d'exercer une tendance qui est la leur. Et d'ailleurs, je pense que on se lance en politique, c'est qu'on a quand même un petit peu cette envie d'être pas forcément dans la domination,
dans le pouvoir,
mais pas forcément complètement.
C'est ça qu'il faudrait changer. Il faudrait recruter des gens qui ont envie de changer la vie des gens. Et ça, c'est hyper dur parce que pour l'instant, le recrutement du personnel politique ne se fait pas sur la volonté des gens de modifier l'intérêt général.
On parle beaucoup de politique, mais il y a une autre affaire qui est à la une partout, c'est l'affaire de Jacques Boutier, le patron d'Assu 2000. Là, on a aussi des pratiques qui visiblement ont duré sur plusieurs décennies, de pouvoir, de toute puissance, etc.
Plus
que personne n'osait dénoncer à l'intérieur de l'entreprise, alors que tout le monde voyait des choses. Et là, ça, à la fin de sa carrière, puisqu'il a plus de 70 ans, tout d'un coup, tout sort. Mais là, on est dans l'entreprise, on n'est plus dans la politique.
Non, bien sûr. PPDA, c'était pas non plus dans la politique. Bourdin, c'était pas non plus dans la politique. Hulot, c'était dans la politique, mais pas tant. Effectivement, il y a une...
Le plus important, je pense
que c'est... Quel est le point commun?
C'est quand même...
Je vous laisse me donner les points communs.
Ce sont des hommes blancs.
Des hommes qui bourgeois surtout qui ont de l'argent. En fait, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'on arrive dans une nouvelle phase où, pendant très longtemps, il y a plusieurs formes de masculinité qui ont été pointées du doigt. Les beaufs avec leur calendrier, les hommes dits racisés avec leur qui alpaguent les femmes dans la rue, etc. Et maintenant, on commence à se dire, en réalité, il va falloir cesser d'avoir une lecture assez faussé. En réalité, on a un problème avec la virilité partout, la masculinité partout.
Problème avec l'homme. Par contre, donc vous glissez sur l'idée qu'on a un problème avec l'homme avec un grand H, quoi. Avec l'homme en tant que
presque masculin. Non, mais pas du tout.
L'homme en tant qu'être.
En tant que la construction sociale,
le genre masculin
valorise les hommes qui justement peuvent mettre une emprise sur les autres.
Il faut que l'image sociale de l'homme virilisé soit alors peut-être que ça va être remise en cause, mais soit aujourd'hui l'image qui est valorisée dans le monde me paraît pas complètement.
C'est fini. Ne prenons pas aux hommes du patriarcat qui mettent les femmes sous.
C'est exactement le même phénomène.
On est peut-être parfois plus complaisant.
On a beaucoup plus de complaisance.
Si vous pensez
que la masculinité hégémonique est toxique pour notre démocratie, l'homme politique, faites comme Mathilde veut, l'homme politique, vous en faites du compost. Le livre est aux éditions Stock. Merci d'être venu discuter et débattre avec les grandes gueules.